Le 19 juin 1622, Rubens écrivait « J'ai aussi publié un livre sur l'architecture des plus beaux palais de Gênes. Avec sa propre maison et surtout son atelier, il a apporté un élément d'Italie à Anvers. »
Regardez la maison de Rubens au numéro 9 et 11 sur le vapeur ou bascule. Imaginez qu'une machine à remonter le temps vous ramène plus de 400 ans en arrière à 1611, mais que vous restiez connecté à aujourd'hui. La protection de la vie privée nous interdirait l'accès aux actes notariés, testaments, procurations, permis de construire, mais pour les générations futures, ils sont un filon d'or de données historiques. En 1611, Rubens achète une maison avec terrain sur le Wapper pour 7600 florins. Il entreprend de longues rénovations et la construction d'un atelier au-dessus des fondations existantes. Cette entreprise lui coûte peut-être 10 fois le prix d'achat. En termes monétaires d'aujourd'hui, un investissement dépassant le million d'euros. Fort des revenus de ses peintures monumentales, Rubens a pu se constituer une fortune considérable. La statmasse ou succession rédigée 5 ans après sa mort, fait état d'une fortune de 400 000 florins, soit 5 millions d'euros. Pas si différent d'aujourd'hui, les citoyens du XVIIe siècle étaient des planificateurs. Pierre-Paul et Isabelle avaient prévu dans un testament réciproque que le frère Philippe et le père Jan Brandt deviendraient les tuteurs de leurs enfants. Mais Philippe mourut le premier. Pour ces deux mariages, comme il se doit, Rubens a conclu un contrat formel avec sa future épouse. Après le décès, les contrats et les testaments ont été soigneusement exécutés. Son héritage a été partagé entre les enfants des deux mariages. Personne n'a été lésé. Son fils Albert a reçu tous les livres et la moitié des médailles qu'il partageait avec son frère Nicolas. Hélène a conservé ses bijoux et ses vêtements en laine, en soie, dorés, argentés, ainsi que les lins lui appartenant.